Bonjour. Au nom de Gilles et de Marie, j'aimerais vous souhaiter une très chaleureuse bienvenue. Bienvenue en cette église que nos amis catholiques ont eu la gentillesse de bien vouloir nous prêter. Parce que les locaux de l'église évangélique baptiste dont font partie Gilles et Marie sont trop petits pour vous accueillir tous. Merci d'être venus partager la joie de Marie et de Gilles. Merci d'être venus manifester ainsi votre affection et de les entourer en cette journée unique. Merci de vous faire les témoins de leur amour et de leur engagement. Alors nous connaissions déjà Gilles et Marie en tant qu'individus. Nous avons appris à les connaître en tant qu'amoureux, en tant que fiancés. Et ils étaient déjà formidables. Il faut bien le dire quand même, ils étaient super. Et bien maintenant, nous allons apprendre à les connaître sous un jour nouveau, parce qu'il y a environ, j'imagine, 50 minutes, 55 minutes, devant le maire, Marie et Gilles se sont dit oui. Gilles et Marie, aux yeux de la société, mais également aux yeux de Dieu, sont devenus mari et femme. Et c'est avec énormément de joie que nous accueillons aujourd'hui Monsieur et Madame Hamann. Pas trop que je les regarde, sinon ça va être dur. Juste quelques annonces pour le bon déroulement de cette cérémonie. Un photographe a été mandaté par Gilles et Marie pour prendre les photos de cette cérémonie. Alors vous pouvez, si vous le souhaitez, prendre des photos, mais ce que nous vous demandons, c'est de bien vouloir rester à votre place, de rester assis, ou bien de vous mettre contre un mur, afin de ne pas gêner les autres personnes présentes dans cette salle. Et si jamais vous n'y avez pas pensé, d'ailleurs je m'étais dit je vais d'abord le faire, si vous n'y avez pas pensé, je vous prie de bien vouloir mettre ce petit appareil, en tout cas le vôtre, sur position silencieuse. Mon épouse met également son téléphone en position silencieuse. Je vais lui faire signe parce qu'on a un petit loupé.
Excusez-moi, j'éteignais mon portable. Si Gilles et Marie ont décidé de nous réunir dans une église le jour de leur mariage, c'est parce que Dieu occupe dans leur vie une place importante, une place centrale même. Et c'est cette place qu'ils veulent aussi donner à Dieu dans leur union. Par cette cérémonie, ils veulent proclamer aux yeux de tous leurs proches leur désir de s'engager devant et avec Dieu. N'est-ce pas ? J'ai bien résumé. Ils veulent proclamer Dieu comme leur roi et nous invitent à les accompagner par le chant que vous trouverez sur votre feuille jaune qui s'intitule « Nous annonçons le roi » et je vous invite à vous lever pour ce chant.
J'aimerais demander à Ginette, la maman de Marie, de bien vouloir s'approcher. Ginette voudrait dire quelques mots à Marie. Alors, inutile de chercher sur votre programme cette intervention, parce que c'est une surprise.
Alors Marie, j'avais à cœur de t'écrire quelques mots en ce jour si beau. Alors pour toi Marie, sur le livre de ta vie, quelques lignes de ton récit, quelques souvenirs d'enfance sont gravés aujourd'hui, inscrits de ta présence, inscrits à l'infini. Sur le livre de ta vie, quelques soleils, quelques nuits, quelques brouillards, quelques éclaircies sont gravés aujourd'hui, inscrits de ta patience, inscrits à l'infini. Sur le livre de ta vie, quelques couleurs, quelques fleurs, quelques dessins de broderie sur la toile de ton cœur sont gravés aujourd'hui, inscrits de ton sourire, inscrits à l'infini. Sur le livre de ta vie, ce jour, comme un soleil, lui, illuminant la pleine nuit, sur ton chemin dès aujourd'hui, gravé à l'encre de l'amour, gravé dans ton cœur pour toujours, inscrit à l'infini. Sur le livre de ta vie, Dieu, l'encre de ta foi, Dieu, lumière de tes pas, Dieu, espérance, Dieu, avec toi. Dieu, essence de ta joie. Dieu, présence. Dieu, confiance. Inscrit à l'infini.
Pierre-Yves et moi-même avons eu le privilège d'accompagner Gilles et Marie dans ces mois qui ont précédé leur mariage. Et quelque chose qui nous a beaucoup réjouis, c'est de voir leur volonté de placer Dieu au centre de leur couple, au centre de leur vie, au centre de leurs projets, et de pouvoir être le reflet dans l'amour qu'ils se portent l'un à l'autre de l'amour de Dieu. La Bible nous dit dans 1 Jean 4, 12, « Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour se manifeste pleinement parmi nous. Personne n'a jamais vu Dieu, mais c'est au travers de notre amour, les uns pour les autres, c'est au travers de votre amour, l'un pour l'autre, que l'on pourra percevoir un peu de sa personne. La Bible utilise souvent l'image d'un homme très amoureux de sa femme pour illustrer l'amour de Dieu envers nous. Mais quelle que soit l'image, elle reste bien en dessous de la réalité de cet amour immense et inconditionnel manifesté en Jésus-Christ. Et je vous invite à reprendre vos feuilles jaunes pour ce chant qui dit « Entends mon cœur ».
désespoir. Seigneur, tu sais mes craintes, et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour.
Chanter comme une prière. Seigneur, entends nos cœurs, entends nos esprits qui te louent. Mais dans la Bible, l'accent est également mis sur à quel point nous avons besoin d'entendre le Seigneur, d'être à son écoute et de disposer notre esprit à ce que Dieu veut nous dire. Je vais inviter Nazaire Veltz à s'approcher. C'est Nazaire qui va nous apporter la prédication, un partage fondé sur la Bible, la parole de Dieu sur laquelle Marie et Gilles ont décidé de construire leur vie, de bâtir leur couple et de nourrir leur amour. Nazaire est un des anciens, un des responsables de l'église de la Bonne Nouvelle de Strasbourg, église dans laquelle Gilles a grandi. Je lui cède la place.
Bonjour tout le monde. Non seulement je suis un des responsables où Gilles a grandi, mais je suis aussi un ami de Gilles et maintenant de Marie. Marie et Gilles, c'est une joie pour moi d'être là, pour vous entourer en cette journée toute spéciale pour vous et pour moi. Enfin, ce 21 août 2010, tant attendu est arrivé. Journée sous le signe de l'amour. En effet, vous avez choisi ces beaux versets de 1 Corinthiens 13 pour marquer cette journée. En toute occasion, l'amour pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. L'amour n'aura pas de fin. Ces versets sont tirés du chapitre 13 de l'épître de Paul aux Corinthiens, chapitre qui a pour titre « L'amour ». Cette épître a été écrite pour les chrétiens de Corinthe, donc pas uniquement pour nos jeunes couples, mais aussi pour nous tous, pour toi et pour moi. Marie et Gilles, j'aimerais vous laisser trois exhortations. La première, soyez amoureux l'un de l'autre. Pas seulement aujourd'hui, mais aussi longtemps que Dieu vous accorde vie. Et je me rappelle d'un couple qui est venu me voir pour une préparation au mariage. Et à la première séance, je leur ai demandé ce qu'ils attendaient de moi. Et ils m'ont tout de suite parlé de la cérémonie, de l'organisation, etc. Et je leur ai tout simplement dit que pour l'instant, la cérémonie ne me préoccupait nullement. Par contre, ce qui m'intéressait, c'était de savoir où ils en étaient et comment ils envisageaient la suite. Ce qui est important, ce n'est pas la cérémonie, mais c'est les prochaines 50 années. Et plus, si affinité. Au fait, qu'est-ce que l'amour ? Le dictionnaire nous dit que l'amour est une affection vive pour quelqu'un ou pour quelque chose. C'est un sentiment passionné pour une personne de l'autre sexe. Amoureux, qui aime d'amour, avec passion, qui exprime l'amour. Et la Bible nous dit que Dieu est amour. Cela fait partie de sa personne, de sa nature. Et quand nous lisons la Bible, la parole de Dieu, nous voyons l'amour de Dieu en action. Exemple, Jean 3, verset 16, nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, l'amour de Dieu, ce n'est pas un coup de foudre. Un coup de foudre, c'est quelque chose qui se passe très vite, le temps d'un éclair, et qui peut même faire des ravages. Mais le vrai amour se construit, s'entretient, se rénove, se vit. 1 Jean 3, 18 nous dit « Petits enfants, n'aimons pas en parole ni avec la langue, mais en action et en vérité. » Oui, l'amour est le moteur de toute chose. Et laissez-moi vous l'illustrer par une parabole. Un représentant d'aspirateur vient frapper à la porte de Madame Hamann. Et très poli, il se présente et lui montre sur un catalogue toute la gamme d'aspirateurs. Celui-là vous conviendrait, j'en suis sûr. Regardez sa forme moderne, en plus, il est programmable. Un bouton pour aspirer la moquette, un autre pour le carrelage, un autre pour les tissus fragiles, et un autre pour les fauteuils. Et en plus, vous avez l'option télécommande. Là, Madame Hamann ouvre grand ses yeux et ses oreilles. Vous vous rendez compte, vous asseyez dans votre salon, et à distance, vous gérez votre aspirateur dans toute la maison. N'est-ce pas fantastique ? Est-il possible de le voir en vrai, en fonctionnement ? Mais bien sûr, madame. Attendez, j'en ai un dans la voiture. Je vais le chercher. Quelle pièce voulez-vous que j'aspire ? Celle-là, par exemple. Pouvez-vous m'indiquer la prise de courant la plus proche ? Mais monsieur, nous ne sommes pas branchés. Nous n'avons pas l'électricité. Je vous laisse imaginer la suite. Comme l'énergie électrique est indispensable pour faire fonctionner un aspirateur, même le plus perfectionné, le plus moderne, avec toutes les options possibles et inimaginables, l'amour est indispensable pour tout chrétien et pour tout couple. Pour tous ceux qui veulent faire la volonté de Dieu. Sans amour, je ne suis rien, même si je possède tous les dons, toutes les facultés de parler ou de faire. L'amour n'est pas un sentiment, ce n'est pas un coup de foudre, quelque chose qui me tombe dessus. L'amour est une volonté suivie d'action. Oui, le vrai amour, l'amour de Dieu, peut nous rendre capables de pardonner, d'espérer et de persévérer. Ulrich Schaffer a écrit ceci. L'amour nous est moins naturel que l'égoïsme, la jalousie et l'indifférence. L'amour nous vient comme un don, mais encore doit-il sans cesse se renouveler. L'amour croit quand nous vivons avec Dieu. L'amour croit quand nous savons nous accepter nous-mêmes. L'amour croit quand nous savons nous accepter l'un l'autre. Et l'apôtre Paul écrit, l'amour est patient, l'amour est bon, il n'est ni envieux ni vaniteux, il n'est pas égoïste, il ne s'irrite pas, il n'éprouve pas de rancune. L'amour ne se réjouit pas du mal, mais il se réjouit de la vérité. L'amour permet tout, permet de tout supporter. Il nous fait garder en toutes circonstances la foi, l'espérance et la patience. Et Hardy Wittmann écrit, l'amour n'est pas un acte isolé, mais le climat dans lequel nous vivons, le travail de toute une vie où nous sommes sans cesse en train d'apprendre, de découvrir, de grandir. Il n'est pas détruit par une seule chute, ni gagné par une caresse fortuite. L'amour est un climat du cœur. Oui, que cet amour puisse être et rester le moteur de votre vie. Une deuxième exhortation, c'est incluez Dieu dans vos projets. Demandez-lui son avis pour chaque décision importante. Oui, dans la vie, nous avons et vous aurez des décisions à prendre. Des décisions où le simple bon sens suffit. Comme par exemple, il y a quelque temps, lors d'une marche que nous avions faite avec vous et les parents de Gilles dans les Alpes, je ne sais pas si vous vous souvenez, et arrivé au refuge des Fours, à 2537 mètres, il vous fallait décider de continuer avec nous jusqu'au col de la Rocheuse ou de rebrousser chemin. Décision qui n'a pas eu de conséquences fâcheuses, mais qui aurait pu créer des tensions ou des frustrations. Puis il y a d'autres décisions plus importantes qui nécessitent plus de réflexion, de conseils, de prières. Gilles et Marie, un jour, vous avez accepté ce Dieu d'amour dans votre vie. Vous avez cru en ce Dieu d'amour et maintenant vous pouvez aussi lui faire entière confiance. Il vous connaît mieux que quiconque et cette toute connaissance de Dieu n'est pas terrifiante pour vous, mais au contraire encourageante et rassurante, car Dieu promet de vous entourer et de vous protéger. Et j'aimerais l'illustrer cela par une histoire que certains d'entre vous connaissent peut-être. C'est l'histoire aussi d'un couple qu'on nommera pas et qui tombe en panne avec leur voiture le long d'une route départementale. Et comme la plupart des personnes dans ce cas l'auraient fait, le mari ouvre le capot à l'avant du véhicule et plonge la tête dans le moteur pour essayer de voir d'où vient la panne. Fait-il semblant de comprendre quelque chose à la mécanique ? Je l'ignore. À ce moment, survient un autre automobiliste qui s'arrête. Un homme en costard-cravate en sort et propose ses services aux malheureux. Ceux-ci de répondre qu'ils vont bien se débrouiller tout seuls, qu'ils n'ont besoin de rien, ni de personne, et poliment, il le renvoie. Le bienfaiteur repart et notre malheureux se replonge dans la mécanique. Il essaye de comprendre, mais plus il comprend, plus il essaye et moins il comprend. Un certain temps passe et le même bienfaiteur repasse, s'arrête à nouveau et propose les mêmes services qui sont enfin acceptés. L'homme, après quelques réglages faits en un temps record, tend les clés au propriétaire et leur demande de démarrer. Le moteur démarre au quart de tour. Comment avez-vous fait ? Je n'en reviens pas. Au bienfaiteur de répondre, je m'appelle Monsieur Ford et c'est moi qui ai conçu cette voiture. Oui, Monsieur Ford connaissait la voiture. Il était capable de la réparer, car c'est lui qui l'a conçue, qui l'a faite. À plus forte raison, notre Créateur, qui nous connaît, peut nous aider. Il nous connaît dans les moindres détails et il veut prendre soin de vous. Et souvent, nous ressemblons à ce couple et nous disons à Dieu, je n'ai pas besoin de toi. Je peux me débrouiller tout seul. Laisse-moi faire, je suis assez grand. je suis assez riche, je suis assez, on peut mettre beaucoup de choses. Oui, Dieu notre Créateur vous connaît et nous connaît jusque dans les profondeurs les plus intimes de notre être. 1 Samuel 16 nous dit « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Et au psaume 139 « Éternel, tu me sondes et tu me connais. » Oui, ce Dieu qui est votre Créateur vous connaît, rien n'est caché à ses yeux et c'est pour cela qu'il est aussi capable de vous aider. Troisième exhortation, invitez Jésus à bord. Marie et Gilles, vous avez pris la décision de vous marier et vous l'êtes. Les Écritures nous enseignent que le mariage est un don de Dieu, un saint mystère par lequel homme et femme deviennent une seule chair. On a beau dire que cela se trouve dans la Bible, mais encore faudrait-il savoir ce que Dieu entend par ces termes. Comment deux êtres peuvent-ils n'en former qu'un? L'union des corps dans l'amour physique ne produit qu'une fusion passagère, certes merveilleuse, mais la plupart du temps, il y a tout simplement deux êtres qui s'aiment, distincts et différents l'un de l'autre, et qui n'ont ni les mêmes activités, ni les mêmes goûts, ni les mêmes talents, ni la même façon de faire. Puisqu'il s'agit de devenir un, quel est cet un que nous allons chercher à être? Pour ma part, je ne tiens nullement à perdre mon individualité, à cesser d'être moi-même. On a parfois l'impression que le mariage est l'absorption de l'un par l'autre, alors qu'en fait, il devrait plutôt être la fusion des deux vies dans le sens où les faiblesses de l'un sont compensées par les forces de l'autre, un enrichissement et non un appauvrissement pour chacun. Au lieu de nous emprisonner, cette union permet à notre vie de prendre au contraire une dimension nouvelle. Car si nous nous sentons en sécurité, parce que sûrs de l'amour de l'autre et de la compréhension de l'autre, nous découvrirons peut-être une autre liberté, celle d'atteindre notre maximum, de vivre une vie pleine que nous n'aurions jamais connue autrement. Devenir une seule chair, cela veut dire que deux êtres humains partagent tout ce qu'ils ont, non seulement leur corps, non seulement leur bien matériel, mais aussi leurs pensées, leurs sentiments, leurs joies, leurs souffrances, leurs espoirs, leurs craintes, leurs réussites et leurs échecs. Devenir une seule chair, cela veut dire que deux deviennent un dans leur corps, leur âme, leur intelligence, tout en demeurant deux personnes distinctes. C'est là le mystère profond du mariage. Et il est difficile de le comprendre. Peut-être ne pouvons-nous pas le comprendre du tout, mais seulement le vivre. J'aimerais utiliser deux histoires, l'une qui s'est déroulée il y a 2000 ans, que nous trouvons dans la Bible, dans l'évangile de Marc au chapitre 4, histoire où les disciples de Jésus voulaient passer de l'autre côté d'un lac. Et la deuxième qui s'est déroulée il y a plus de 20 ans, lors de nombreuses visites des parents de Gilles chez nous, quand nous habitions encore en Lorraine, et nous étions montés avec Gilles dans une barque pour traverser un bras d'étang, pour accéder à une des plus grandes héronnières d'Europe. J'ai des photos, ne t'en fais pas. Supposons que le traversée du lac représente votre vie de couple, que vous désirez entreprendre. Actuellement, nous nous trouvons sur la rive en train de prendre place dans la barque. Un premier choix s'impose, un choix décisif. Est-ce que j'invite Jésus à bord ? Vous qui êtes dans cette église, avez-vous invité Jésus à bord pour traverser votre vie de couple ou votre vie tout court? Marie et Gilles, il me semble que pour vous le choix est fait et je m'en réjouis. Il y a 20 ans, c'était tes parents qui ont fait les choix pour toi et heureusement. Mais aujourd'hui, le petit Gilou est devenu Monsieur Gilles Aman, chef de famille, responsable de ses propres décisions. Et permettez-moi ce petit jeu de mots. Aujourd'hui, si j'appelle Gilles en le nommant Gilou, il y a de fortes chances que deux personnes vont réagir. Gilles et son beau-père Lou. Oui, le petit Gilou est devenu grand. Et avec sa Marie, un autre choix est à faire. C'est celui de couper les amarres. J'ai bien dit couper et pas d'allonger la longe, de laisser du mou. Le mariage, c'est aussi une séparation. La Bible nous dit en Genèse 2, 24, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et deviendront une seule chair. » Quitter ses parents ne veut pas dire ne plus les aimer, ne plus les respecter. Mais le Créateur a trouvé bon, et cela pour le bien du jeune couple, qu'il y ait une séparation physique. Et si vous avez invité Jésus à bord, vous pouvez en toute sérénité couper les amarres. Revenons à notre histoire dans l'évangile de Marc. Et supposons qu'au début, le lac était calme, un plaisir de naviguer, une situation romantique. Et notons que Jésus dormait et ne semblait pas se soucier des disciples. Et les disciples ne se souciaient pas de Jésus non plus. Ils avaient même oublié qu'il était à bord, tellement il était discret. Et nous qui avons invité Jésus à bord de notre barque pour traverser la vie, n'avons-nous pas tendance à l'oublier quand le lac est calme, quand tout marche relativement bien? Mais même si je l'oublie, si je crois qu'il n'est plus à bord, il est là, prêt à intervenir, prêt à aider, à conseiller, à pardonner. N'hésitons pas, nous qui sommes là aujourd'hui, vous, Marie et Gilles, en tant que couple, de solliciter, d'appeler au secours ce Jésus qui vous connaît et qui sait ce qu'il vous faut au moment qu'il faut. L'histoire nous relate que la tempête se lève, que l'eau commence à entrer dans la barque et Jésus dort toujours. Et c'est à ce moment seulement que les disciples crient « Au secours !» Et Jésus, avec un calme surnaturel, commande au vent et à la mer de se calmer. Quelle puissance dans ses paroles, quelle force. Oui, dans la vie, même dans la vie de couple, il y a aussi des temps où le calme romantique est perturbé par un vent dévastateur. Et combien de couples ont sombré suite à la tempête? Marie et Gilles n'attendaient pas l'ultime moment avant de sombrer pour crier à Dieu, à Jésus-Christ, mais régulièrement, constamment, soyez en communion avec lui, entretenez-vous avec lui, et quand la tempête se lèvera, vous serez forts, car c'est lui qui vous fortifiera, qui sera à vos côtés. C'est lui aussi qui vous montrera là où cela cloche, là où il y a besoin de réconciliation, là où il y a besoin de pardon. Êtes-vous prêt à suivre les consignes de Dieu, à vous pardonner, vous faire mutuellement des concessions? John Drescher a écrit ceci, « Vous ne pouvez espérer le bonheur en nourrissant des rancunes. Dans le mariage, moins qu'ailleurs, on ne peut se permettre de vivre au passé. Si nous voulons vivre ensemble heureux, il faut apprendre à pardonner et à oublier. Dans le mariage, on ne peut pas rester enchaîné à l'erreur d'hier, à la faute des temps passés. Il faut brûler les ponts avec l'aide nécessaire de Dieu. » Et l'apôtre Paul a écrit, soyez humbles et doux, faites preuve de patience l'un envers l'autre, vous supportant mutuellement par amour. Ne restez pas en colère jusqu'au coucher du soleil, mais dépêchez-vous de vous calmer. Les querelles, les paroles dures et les antipathies ne devraient pas avoir de place dans votre vie. Au contraire, soyez bons, compatissants, pardonnez-vous comme Dieu vous a pardonné. Gilles et Marie, soyez et restez amoureux l'un de l'autre. Que l'amour soit votre moteur. Gilles et Marie, incluez Dieu dans vos projets, dans vos décisions. Gilles et Marie, invitez Jésus à bord et entretenez-vous régulièrement avec lui. Et pour toi, Marie, le livre des Proverbes dit ceci, une femme de valeur fait la joie et la fierté de son mari. Elle a bien plus de prix que les perles. Son mari a pleine confiance en elle et elle le satisfait en lui donnant tout ce dont il a besoin. Il ne lui crée pas d'ennui, mais est une aide pour lui tous les jours de sa vie. Elle est revêtue de force et de dignité et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse et mesurée sont ses paroles. Et l'apôtre Pierre dans le Nouveau Testament, « Femme, soyez en harmonie avec votre mari, soyez belle à l'intérieur, dans votre cœur, avec le charme durable d'un esprit doux et paisible qui est si précieux pour Dieu. » Et je me permets de rajouter un écrit de Ruth Belgrame qui dit « Permettez à votre mari, permet à Gilles de n'être qu'un homme. Ne lui demande pas de deviner tes pensées ou d'apporter la sécurité, la joie, la paix, l'amour que seul Dieu peut te donner. Gary et Barbara Rosberg ont écrit un livre ayant pour titre « Les hommes ont 5 besoins ». À toi de les découvrir, Marie. Et pour toi, Gilles, il y a aussi tout un programme. Livre des Proverbes, ne trahis pas ton épouse. Et que ton amour soit pour elle seule. Sois heureux auprès de ta compagne et trouve ta joie dans la femme de ta jeunesse. Sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Et l'apôtre Paul, dans le Nouveau Testament, vous Marie, toi Gilles, ayez pour votre femme le même amour que le Christ avait pour son Église lorsqu'il est mort pour elle. C'est ainsi que les époux devraient traiter leurs épouses et l'aimer comme une partie d'eux-mêmes. Personne ne hait son propre corps, mais l'aime et en prend soin. Aussi l'homme doit aimer sa femme comme une partie de lui-même. Et le titre du livre que j'ai cité pour Marie, à savoir « Les hommes ont 5 besoins », n'est pas complet, mais continue par les femmes aussi. À toi de les découvrir. Et je ne peux que vous souhaiter une bonne route, une bonne traversée, et que Dieu vous bénisse. Et pour finir, un petit extra à quelques-uns, nous voulons encore vous interpréter un chant. Et pour ceux qui connaissent un peu Gilles, vous savez qu'il avait, ou qu'il a toujours, je ne sais pas, comme habitude, le fait d'oublier quelque chose. Et le chant nous rappelle de ne pas oublier.
sous l'effet du vent. Les oiseaux sur leurs branches s'aimeront en amour. Et quand les étoiles cesseront de briller au-delà du grand voile, vous serez rassemblés.
Que Gilles et Marie ont été très touchés de cette manifestation fraternelle, fraternelle à double sens, je pense littéralement, puisqu'il y avait le frère et la sœur de Gilles, mais aussi spirituellement, puisqu'ils font partie aussi de la famille de Dieu. Et Gilles et Marie ont choisi un chant qui dit « Nous voulons vivre l'unité ». Pour Gilles et Marie, l'unité du couple repose avant tout sur l'unité que leur donne l'Esprit de Dieu. Imaginez, la même personne, l'Esprit Saint de Dieu, habite en chacun d'entre eux. En Gilles habite un esprit qui connaît parfaitement Marie, et en Marie habite un esprit qui connaît parfaitement Gilles, qu'elle a tout dans la vie de couple, quand on a le Seigneur. À l'instar de l'unité qui doit se vivre au sein de l'Église, ils veulent vivre et travailler à cette unité dans leur couple. Et je vous invite à prendre ce chant sur votre feuille jaune. Nous voulons vivre l'unité. Vous levez pour le chanter.
Je ne sais pas comment vous avez réagi lorsque vous avez appris que Gilles et Marie allaient se marier. Mais moi, j'étais très heureux. Je me suis dit, formidable. Parce que Gilles et Marie ont beau être d'un naturel plutôt discret, je veux dire, ça se voyait quand même. Et de se dire, mais voilà, ils vont se marier. Et le mariage est le cadre prévu par Dieu pour les hommes et les femmes qui décident de faire un pas dans l'amour, dans la construction de l'amour. Ils vont se marier, c'est formidable. Mais Gilles et Marie sont ambitieux pour leur couple et Gilles et Marie voudraient faire encore un pas de plus dans l'amour. Parce que leur ambition, c'est que leur amour grandisse chaque jour davantage. Et aimer, c'est prendre soin de son conjoint. Et devant nous, qui en serons les témoins, mais aussi devant Dieu, qui est vivant dans leur cœur et qui est présent au milieu de nous, Marie et Gilles ont librement, c'est leur choix, ont librement décidé de faire un pas de plus dans leur amour. Ils ont décidé, chacun en toute liberté, de s'engager l'un envers l'autre par des promesses inaliénables, par une alliance indéfectible. Je vais laisser maintenant la parole aux mariés, mais avant de cela, j'invite Marine et Sylvain, donc la nièce et le neveu de Gilles, à s'approcher.
Il y a 8 ans, nos chemins se sont croisés pour la première fois et aujourd'hui, nous avons décidé de nous les séparer. C'est pourquoi devant Dieu, mais aussi devant nos amis, je m'engage avec toi. Gilles, je te promets de t'aimer tous les jours de ma vie, quelles qu'en soient les circonstances. Je te promets de t'être fidèle. Je te promets de mettre Dieu dans notre couple et de partager avec toi ma foi. Je te promets de t'ouvrir mon cœur, de partager avec toi tous mes sentiments, mes joies et mes peines. Je te promets de te soutenir chacun de mes projets. Je te promets aussi d'être à ton écoute, de partager tes joies et tes peines, et aussi de partager tes peines. Je te promets de m'associer
à toi dans chacune des décisions qui concernent notre couple. Et je te promets aussi que si Dieu nous donne la grâce d'avoir des enfants, de les élever dans notre foi en Christ et d'être une mère bonne pour eux, je te promets aussi de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour leur transmettre ta culture qui est l'Alsace. Je t'aime.
Minali Pschotzele. Ich will jetzt der Reporting sagen, aber ich glaube, dass wenn ich so wieder gehe, verstehst du nichts. Eben wenn ich probiere, dir Elsässisch zu lernen. Pour les autres, c'est pas grave, elle a pas compris non plus. Alors du coup, je vais continuer comme ça. Petite Marie, tu dis que la vie, c'est une bague à chaque doigt. Aujourd'hui, je t'en offre une, j'espère que pour commencer, ça suffira. Mon amour, je t'offre en ce jour cette alliance qui symbolise notre union. Je souhaite également que cette alliance te rappelle et me rappelle chaque jour les promesses que je te fais aujourd'hui. Je promets de t'aimer et de prendre soin de toi tous les jours de notre vie. Je veux être attentif à tes moindres besoins. Je choisis de continuer à t'aimer d'un amour inconditionnel, quelles que soient les circonstances, que ce soit des temps de joie ou des temps de peine. En te choisissant toi aujourd'hui, je renonce à toutes les autres et je veux être ta source principale d'amour et je veux que tu sois la mienne. Je veux chaque jour te donner l'amour dont tu as besoin pour que tu te sentes aimée et je veux également vivre ma foi avec toi. en partageant avec toi des moments de communion avec notre Seigneur qui aura une place importante dans notre foyer. Je promets également que les décisions importantes de notre couple ne seront pas prises seules, ni même à deux, mais à trois. Si Dieu nous fait la grâce d'avoir des enfants, je veux les élever avec toi dans la connaissance de la grâce que nous fait notre Dieu, de son pardon inconditionnel pour tout homme qui l'accepte. Mon amour, tu es et tu seras une femme merveilleuse, et je suis l'homme le plus heureux aujourd'hui de me marier avec toi. Je t'aime.
Nous avons eu le privilège d'être les témoins de l'engagement de Gilles envers Marie et de Marie envers de Gilles. Je suis content que Gilles ait poursuivi en français, parce que je ne suis pas sûr que j'aurais pu me rappeler de tout ce qu'il aurait dit dans quelques temps. Nous avons ce privilège d'être ses témoins, mais nous avons également un autre privilège, celui de pouvoir ensemble nous tourner vers Dieu et d'intercéder en faveur de Marie de Gilles, afin que leur Seigneur les guide dans la construction, dans l'épanouissement de leur jeune couple. Je vais inviter Marc Ray, pasteur de l'église baptiste, ainsi que Nazer Vels à s'approcher. C'est Marc et Nazer qui vont conclure ce moment de prière. Mais dans un premier temps, que chacun de nous ici présents se sente libre de prier notre Dieu afin qu'il conduise, qu'il soutienne, qu'il inspire Gilles et Marie dans la construction, dans l'épanouissement de leur jeune couple, afin que l'amour de Dieu resplendisse en eux. Je vous invite maintenant à prier librement.
Seigneur, merci car un jour, tu es venu à la rencontre de Gilles, un jour tu es venu à la rencontre de Marie, et ils t'ont accepté dans leur vie comme leur sauveur et Seigneur. Et aujourd'hui, je te demande, Seigneur, en tant que couple, que tu puisses les accompagner, que leur foyer puisse être un foyer ouvert, un foyer où il fait bon vivre, un foyer où on aime venir, et que, en tant que couple, ils puissent être en bénédiction pour beaucoup. Oui, Seigneur, accompagne-les, que ta bénédiction repose sur ce couple, dans le beau nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Merci Seigneur, merci d'avoir donné Marie à ses parents, d'avoir donné Gilles à ses parents, à leur famille. Merci aussi de les donner l'un à l'autre. Merci pour ce jour magnifique, qu'il soit comme le signe d'un avenir prometteur qui te glorifie et d'une marche constante avec toi. Merci aussi, Seigneur, parce que nous savons que tes promesses sont vraies, qu'elles sont là pour ceux qui te suivent, pour ceux qui te sont fidèles. Bénis-les, Seigneur, abondamment, et qu'en tout temps, qu'en toute chose, qu'en toute circonstance, tu sois celui qui les accompagne et qui les dirige au long de leur vie. Merci Seigneur pour ta présence en eux et avec eux. Amen. Marie et Gilles, je vais vous offrir, ou nous allons vous offrir ensemble, un petit livre. Un livre que vous avez d'ailleurs choisi, sélectionné vous-même. J'ai entendu tout à l'heure que l'un de vous deux, je ne sais plus qui, mais peu importe, je pense que vous êtes d'accord avec cette parole, vous ne prendrez pas les décisions à deux, mais vous les prendrez à trois. Cette troisième personne, bien sûr, il n'y a aucun doute là-dessus, c'est Dieu, c'est le Seigneur. Et ce petit livre que vous avez choisi s'intitule « La prière en couple ». Prier, c'est pour un chrétien comme respirer. L'apôtre Paul a dit « prier sans cesse ». Mais prier en couple, combien c'est important, et vous le savez puisque vous avez choisi ce livre, mais combien c'est aussi difficile. Parce que même quand on est instituteur, on n'a pas toujours du temps devant soi. On se dépêche le matin au petit déjeuner pour aller au travail. Et même quand on a le métier de mari, on n'a peut-être pas toujours les bonnes lunettes qu'il faut pour lire. Mais je crois qu'il n'y a aucun souci à se faire là-dessus. Marie et Gilles ont décidé de passer du temps dans la prière ensemble. Et bien que ce petit livre vous aide à le faire régulièrement, intelligemment, priez pour que Dieu vous dirige dans vos décisions, mais priez aussi pour les autres. Priez pour tous ceux qui ont des besoins, qui ont des fardeaux, qui ont des problèmes, pour que votre vie ne soit pas seulement la vôtre, mais qu'elle soit aussi en bénédiction sur les autres. Alors, au nom de notre Église de Villefranche, je suis heureux de vous ouvrir, de vous offrir ce petit livre et qu'il soit en bénédiction pour vous.
Comme Gilles faisait partie de l'église de la Bonne Nouvelle de Strasbourg, donc on a cru bon de donc leur offrir ce livre en commun, en sachant aussi que ce titre m'interpelle aussi moi pour ma responsabilité par rapport à eux, que nous puissions aussi prier pour eux en tant que couple, en tant qu'amis, en tant que voisins, en tant que frères dans la foi. Que ce livre puisse vous accompagner, qu'il puisse peut-être vous motiver à prier ensemble. Mais le livre que je vous encourage à lire en premier, c'est la Bible, et que ce livre soit vraiment une annexe, et que vous puissiez faire bon usage, et qu'on puisse peut-être en reparler dans quelques temps. Voilà, alors bonne route à vous, et je vous souhaite de bons moments de prière.
J'aimerais maintenant inviter les quatre témoins des mariés à approcher. Laetitia, Myriam, Romain et Célia, en tant qu'amis proches, mais également en tant que témoins des mariés, vont dire maintenant quelques mots à Marie et à Gilles.
Marie, Gilles, enfin, ce jour de joie est arrivé. Je vous connais tous les deux depuis un certain temps. D'abord Marie, dans le groupe de jeunes, nous avons eu de nombreuses discussions, fait de nombreuses balades, eu des moments vraiment précieux partagés ensemble. Et puis, c'est alors que je ne connaissais pas si bien Marie, aussi bien qu'aujourd'hui du moins, que j'ai eu connaissance de la présence de Gilles dans la vie de Marie. Alors je vous raconte, j'étais à la Bonne Nouvelle de Strasbourg alors que j'allais voir ma famille qui habite en Alsace et je me suis retournée et là j'ai vu quelqu'un qui m'était familier mais qui n'était pas à une place habituelle. Qui c'était ? Eh bien c'était Marie. Marie, et donc après avoir mené ma petite enquête, j'ai compris qu'il y avait plusieurs motivations pour venir en Alsace mais que la principale résidait en la présence de Gilles. Et puis c'est quelques étés plus tard, lors d'un camp dans les Alpes, que j'ai eu l'occasion de faire la connaissance de Gilles de manière plus approfondie et d'en faire notamment un fabuleux compagnon de route en scandant des cris de force jaune et force bleue. Alors je vous ai suivi l'un l'autre. Marie, cette amie si fidèle dont les coups de fil ne se sont jamais espacés durant mon année parisienne, ni les lettres durant mon année indienne. Je me souviendrai aussi de cette nuit toute particulière que nous avons passée ensemble, toutes les deux, quelque part au pied du Mont Aigoual, sous une tente. Je crois que je m'en souviendrai, oui, toute ma vie. Et depuis, j'ai eu ce bonheur de te voir évoluer, de te voir grandir, de te voir grandir auprès de Dieu et de construire ta relation avec Gilles, pas à pas, posément. Après des années d'attente et de patience, des distances qui n'en finissaient pas, nous voilà enfin arrivés au jour de votre mariage. Et vous voilà unis pour la vie. Je prie Dieu pour qu'il vous garde tout au long de cette vie de couple. Et je le remercie de m'avoir donné ce couple si précieux en ami.
Marie, Gilles, l'amour vous a unis au cœur de la vie. Main dans la main, vous empruntez un nouveau chemin en commun, vous transportant dans un voyage surprenant. Jour après jour, votre amour se tisse sur une grande toile, vous acheminant à la construction, la confiance, la connaissance, la croissance, la communion. Puis, au fil des saisons, l'ouvrage de votre amour reflète un paysage grandissant, embellissant, d'un éternel printemps. Que l'Éternel fasse luire à sa face sur votre couple et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne sa paix.
Gilles, Marie, je suis plus jeune et sans doute pas assez expérimenté pour évoquer la vie de couple, mais voici une image glanée que j'aimerais vous partager. Gilles, toi, tu joues de la guitare. Marie, tu pratiques la clarinette. Avant toute utilisation, il est indispensable d'accorder la guitare afin qu'elle produise des sons harmonieux. De même, chaque être humain, lorsqu'il s'accorde avec Dieu, gagne en équilibre. Lorsque plusieurs instruments jouent ensemble, le premier travaille encore à les accorder de façon à réjouir les auditeurs. Lorsqu'un couple s'accorde, il gagne en harmonie. Cette harmonie évolue au fil du temps, des événements, de la vie. Elle est précieuse lorsque leur chef d'orchestre, Dieu, en est le guide et le repère. Comme les cordes de la guitare, parfois tendues ou relâchées, n'hésitez pas à vous laisser modeler. Confiez vos cordes entre les mains de notre Dieu. Je vous souhaite tout le bonheur, l'harmonie pour votre vie à deux. Accordez vos violons, Dieu vous donne le la.
Cher Gilou, chère Marie, Gilles, tu m'as demandé il y a à peu près un an d'être ton témoin. Cela m'a fait très plaisir. Puis tu m'as demandé quand j'étais disponible et je t'ai dit tout l'été sauf le week-end du 21 août. Ensuite, tu m'as demandé de dire un mot à ton mariage. Et là, je t'ai demandé comment devait être ce mot, sérieux ou pas. J'ai donc choisi le « ou pas ». Ça fait un moment qu'on se connaît. École du dimanche, cours biblique, petit flambeau, flambeau, camp, chef, petit flambeau, faculté. Je crois que ce que je me souviens le plus, c'était les fous rires. Tu étais spécialiste en la matière. D'ailleurs, Marie, tu pourrais faire fortune avec ça. Tu enregistres son rire sur des petites cassettes, tu les vends et les gens peuvent l'écouter quand ils dépriment. Pendant un certain camp, en tant que chef, nous avons regardé tous les soirs ce fameux spectacle d'un humoriste bien connu et nous avons tellement ri que nous nous sommes fait remonter les bretelles par la directrice. Tout était prétexte à rire. À la fac, tu te lançais des petits défis du style « Je me colle une étiquette de pomme sur le front et je l'enlève si et seulement si quelqu'un me dit « Pourquoi as-tu une étiquette de pomme collée sur le front ?» Malheureusement pour toi, tu as dû la garder toute la journée. Des personnes sont venues me demander pourquoi tu avais cette étiquette, mais tu disais que ça ne comptait pas. Ou encore, manger une demi-pomme sans les mains, ou bien lancer une bataille de stabilo dans l'amphi. Mais le clou, celui qui nous a fait le plus rire, c'est la « ou » attitude. Elle consiste à remonter le boulevard de la Victoire, boulevard dans le quartier étudiant de Strasbourg, et de crier « ou » aux personnes qui passent. Évidemment, je ne précise pas que tu n'étais pas seule dans toutes ces combines. Mais il y a des moments où tout redevenait sérieux. C'est quand ton portable vibrait. Plus rien n'existait autour, et tu te mettais à pianoter, puis tu restais pensif un moment. Pas besoin de demander ce qu'il se passait, nous le savions tous, et nous respections tes moments de silence et tes coups de blues. Puis est venu le moment où tu as dû faire un choix, partir ou rester. Et en vous voyant ici tous les deux, je pense vraiment que tu as fait le bon choix. C'est une joie pour moi aussi que l'on puisse partager une même fois tous les trois. Pour finir, je désire vous laisser un verset qui se trouve dans Ésaïe. Même si les montagnes se mettaient à bouger, même si les collines venaient à chanceler, mon amour envers vous ne bougera jamais, mon alliance de paix ne chancellera pas, déclare l'Éternel, remplisse de tendresse pour vous.
Nous dit la corde à trois brins ne rompt pas facilement. C'est pour cela que Gilles et Marie ont désiré associer le Seigneur à leur union, mais pas seulement. C'est aussi pour cela qu'ils ont désiré associer leurs amis, leurs familles, leurs frères et sœurs en Christ, non seulement pour un jour, fût-il aussi exceptionnel que celui-ci, mais pour toute leur vie ensemble. Pour bénéficier de vos prières, de vos encouragements, de vos exhortations, voire de vos avertissements, pour former une chaîne d'amour. Et je crois qu'ils comptent particulièrement sur vous, leurs témoins, pour les accompagner dans cette vie de couple. et je vous invite à vous joindre à leur prière par ce chant qui dit « Nous sommes unis dans la famille de Dieu, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. »
Nous voulons maintenant remercier chacun d'entre vous pour la joie que vous nous avez faite d'être aujourd'hui, en ce jour tout particulier, ici pour nous deux. Merci d'avoir été témoin de l'engagement que nous avons pris l'un envers l'autre.
Nous voulons remercier particulièrement nos parents pour la participation active dans la préparation de ce jour de joie. Nous voulons aussi remercier toutes les personnes qui se sont investies dans le déroulement de cette cérémonie qui se clôture doucement. Nous voulons aussi vous inviter au vin d'honneur. Et... Non. Nous remercions aussi toutes les personnes qui ont préparé le vin d'honneur, qui s'y sont investies et aussi dans la soirée.
Le vin d'honneur, vous y êtes quand même invité, mais ça vient plus tard. Nous voulons aussi remercier notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, source de toute paix et de tout amour, qui nous a vraiment gardés et guidés et conduit jusqu'à ce jour, et avec l'assurance qu'il continuera encore éternellement.
C'est maintenant. À présent, nous vous invitons tous au vin d'honneur qui aura lieu à l'église baptiste de Villefranche. Vous trouverez au dos des programmes des indications pour vous y rendre.
Juste avant d'y aller, nous souhaiterons encore faire quelques photographies de groupe juste après la sortie. Pour ne pas perdre trop de temps, nous vous demanderons d'être disciplinés. Vous aurez tout le temps de vous saluer et de discuter avec un grand nombre des personnes ici présentes lors du vin d'honneur. Nous souhaiterions faire une première photographie avec un maximum de personnes. C'est pourquoi on vous donne rendez-vous tout de suite après notre sortie au niveau des marches de la mairie qui se trouve à peu près par là-bas. Voilà, c'est tout.
Gilles et Marie, nous voulons nous aussi vous remercier de nous avoir associés à ce beau moment avec vous.
Que notre Dieu qui est fidèle s'engage à vos côtés afin que votre couple puisse vraiment refléter la lumière, la beauté de son amour. Les mariés vont maintenant sortir, les premiers. Mais ce qui est formidable, c'est que tout à l'heure, c'était déjà beau, enfin moi d'ici, c'était magnifique de les voir rentrer, mais ils ne sont pas rentrés ensemble. Alors là, puisque les mariés vont sortir les premiers, nous allons avoir le privilège de les voir marcher côte à côte pour la première fois en tant que mariés femmes.